versets entrent en résonance, mais ce sera au fur et à mesure de notre développement. Ce texte se trouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 20, versets 2 à 3. C'est au moment où le Seigneur Dieu donne les 10 commandements, les 10 paroles qui indiquent la façon dont on peut marcher avec lui selon ce qu'il désire. Et voilà ce qu'il est dit. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles et il dit, « Je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison de l'esclavage. » Ensuite ça continue, « Tu n'auras pas d'autre Dieu que moi et le reste des commandements. » Simplement ce texte. Il y a bien des objets de la vie qui deviennent un peu indispensables pour nous au fil des modes, au fil des temps. Et parmi les indispensables de la vie quotidienne, se sont imposés ces dernières années, il y a incontestablement la carte de visite. La carte de visite fait partie aujourd'hui d'un certain nombre d'indispensables de la vie de tous les jours. La pratique de la carte de visite, j'ai découvert cela en faisant mes petites recherches, est assez ancienne. Elle date, dit-on, de Louis XIII, au début du XVIIe siècle. Pendant longtemps, c'était presque un luxe d'en posséder. Il fallait aller chez l'imprimeur, choisir avec lui une police de caractère, plutôt chic, plutôt carré, impression en relief, impression offset. On achetait les enveloppes qui correspondaient au format, on payait le prix qu'il fallait et on était paré pour écrire un petit mot sans faire une longue lettre, laisser une trace officielle de bon genre ou donner ses coordonnées professionnelles. Aujourd'hui, tout cela s'est démocratisé. Le format s'est standardisé. Carte de visite, carte bancaire, même format. Chacun crée sa propre carte sur Internet. On illustre, on personnalise et surtout on distribue, sans forcément écrire. La carte elle-même est le message. L'histoire ne dit pas ce qu'il advient de toutes ces cartes semées à tout vent, mais donner sa carte, c'est exister, être relié, laisser une trace. Alors on espère que l'image donnée par la carte sera positive et nous représentera bien. Je me souviens de mon premier essai de créer ma carte de visite sur Internet. Il n'a pas été très heureux, cet essai. Entre l'écran, ce que je voyais sur l'écran, et le résultat imprimé lorsque mes cartes ont été livrées, il y avait un petit monde de différence. J'ai quand même essayé d'utiliser les cartes, j'en avais acheté 1500. Et j'essayais de les utiliser jusqu'au jour où quelqu'un a eu l'honnêteté de me dire « on dirait une carte de pompe funèbre ». Le lendemain matin, j'ai mis tout cela de côté, je suis reparti sur de nouvelles bases. Comme quoi, une carte de visite, c'est aussi un message, positif ou négatif. Alors pourquoi vous raconter tout cela ? Parce que bien avant Louis XIII, bien avant Internet, bien avant notre frénésie de communication, il me semble que le Seigneur, à sa façon à lui, a utilisé lui aussi ce moyen de communication qu'est la carte de visite. Il a tenu à communiquer par une formule qui il est, ce qui le caractérise. Et il a tenu à le faire de manière dynamique, qui donne à penser et qui s'applique à bien des situations et qu'on peut se transmettre comme cela, de main en main, de génération en génération même. Cette carte de visite, ce ne sont pas les 10 commandements, trop massifs, trop écrasants peut-être aussi, et peut-être pas entièrement dans ce que Dieu veut donner d'abord comme message. Mais cette carte de visite, me semble-t-il, c'est la formule que nous avons lue et qui introduit ces 10 commandements. « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. » Ça, c'est vraiment, me semble-t-il, une carte de visite que le Seigneur a voulu donner. Elle est liée aux 10 commandements, mais elle vaut pour elle-même. Et je dirais que si on voulait actualiser un peu la présentation des 10 commandements, On pourrait imaginer le bloc solide, granitique des 10 commandements, avec la petite carte mise juste devant, pour que l'on peut prendre comme cela ce petit carton que l'on reçoit, que l'on peut garder en disant « Voilà dans quel esprit, voilà ce que le Seigneur a voulu nous dire en nous donnant tout cela. » Et cette carte, me semble-t-il, elle est plutôt réussie de la part du Seigneur. Et si vous l'avez entre les mains, je vous conseille de bien la garder, de bien la faire vivre. Il faut bien entendre cette formule « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte ». Ce n'est pas une formule qui dit « Il était une fois un pauvre peuple qui sortit de l'esclavage » par l'intervention de son Dieu. Non, c'est « Je suis » ou « C'est moi le Seigneur, je suis maintenant et toujours le Seigneur ton Dieu, moi qui t'ai fait sortir d'Égypte ». C'est la carte de visite du Dieu vivant. Tu veux savoir qui je suis ? Tu veux savoir ce que sont mes ressources ? Tu veux savoir ce que sont mes intentions? Regarde cet événement, elle te donne la clé dont tu as besoin, le repère qui t'est utile. C'est de cette manière, en tout cas, que dans le peuple d'Israël, on s'est approprié cet événement de l'Exode. Ce n'était pas simplement un événement que l'on rappelait parce qu'il faisait partie de l'histoire passée. C'est un événement que l'on rappelait parce qu'il disait quelque chose sur le Seigneur. Et les prophètes en particulier, bien des siècles après le moment de l'Exode, ont su faire de l'Exode un modèle de l'action de Dieu. Ils se sont appropriés en quelque sorte l'événement comme une carte reçue de Dieu qu'ils ont précieusement conservée pour en faire une source d'inspiration, une source de foi, une source d'espérance au cœur de ce qu'ils vivaient. Et je vous invite donc à suivre un petit peu un parcours de quelques-uns des textes où l'on voit que cet événement est repris comme la carte de visite du Seigneur et qui peut accompagner en quelque sorte le peuple de Dieu dans son cheminement. Partons du tout début. Il faut d'abord rappeler ce qui fait l'événement initial de l'Exode. Cela peut se rappeler en quelques mots. Il y a d'abord un peuple. Le peuple d'Israël en situation d'oppression, de souffrance. Un peuple écrasé par plus fort que lui. Un peuple brisé par ce poids d'esclavage et de contraintes. Un peuple au bout de ses ressources. Un peuple à bout de force. Sans perspective, sans horizon, sans moyen de s'en sortir. Ce peuple, on est bien près de le briser et de le casser. Et c'est là que le Seigneur prend l'initiative et se présente avec des mots magnifiques. Exode 3, versets 7 à 8, c'est ce que Dieu dit à Moïse lorsqu'il l'envoie vers ce peuple. « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, un pays où coule le lait et le miel. » Magnifique message d'un Dieu qui voit, d'un Dieu qui entend, d'un Dieu qui connaît ce que nous vivons et qui intervient pour délivrer, pour remettre debout, remettre en marche, faire de ses opprimés un peuple libre, lui donner même un pays et le conduire vers ce pays. Il y a l'initiative de Dieu, son dessein arrêté, mais les forces d'oppression sont réelles. Et les obstacles à la délivrance sont monumentaux. Et liés à cette délivrance d'Égypte, il y a aussi la réalité de ces obstacles à surmonter. La puissance de l'Égypte se cabre, il faudra la briser. Pas moins de 10 fléaux seront nécessaires. Puis ce seront des situations angoissantes, impossibles. L'armée du Pharaon qui poursuit Israël, la mer devant qui fait barrage, et Dieu qui ouvre la mer, qui fraye son chemin au milieu de tous ces obstacles. Israël traverse la mer, que le Seigneur sépare miraculeusement. Elle se refermera sur les Égyptiens. Le Dieu des délivrances sait tracer ses chemins à travers obstacles et oppositions. Et puis ensuite, il y aura la marche de ce peuple libéré vers le pays où enfin sera le repos. Entre la libération et l'aboutissement, il y a cette étape de la marche. Une étape exigeante, car c'est le désert, le dénuement, la dépendance. Mais au travers de ces réalités, un Dieu qui guide, un Dieu qui pourvoit, un Dieu qui patiente, un Dieu qui éduque et qui est là, encore présent, engagé pour son peuple en chemin, pour le conduire jusqu'au repos. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Littéralement, moi, le Seigneur ton Dieu, je t'ai fait sortir. Quelle force prend ce « moi », ce « je » au regard de tous ces événements? Quelle beauté d'intention, quelle beauté d'action, quelle générosité, quel recours, quelle douceur aussi dans ce « ton Dieu » soufflé comme un mot d'amour, quelle assurance dans ce « ton Dieu » au vu de tout ce que le Seigneur a déployé. Dieu se présente ainsi, avec la force de ces événements. Certains chrétiens disent « aimer Dieu pour ce qu'il est ». Sous-entendu, l'aimer pour ce qu'il fait, c'est être un petit cran au-dessus que « aimer Dieu pour ce qu'il est ». C'est une fausse opposition. Ce que Dieu fait, ce que Dieu a fait dans l'histoire, traduit ce qu'il est, exprime ses intentions, manifeste ses ressources. Et c'est ainsi que l'événement de l'Exode devient un modèle de l'action de Dieu pour d'autres situations et pour toute la vie avec Dieu. Même par rapport à ses commandements. Les commandements de Dieu qui sont donnés, par exemple dans les 10 commandements, sont les commandements d'un Dieu qui nous a libérés, qui nous veut libres de tout esclavage, qui ne nous enfermera donc jamais et surtout pas par ses commandements. On peut donc emporter avec soi, en tant que croyant, ce qui s'est passé là autrefois comme la carte de visite que Dieu nous remet à nous aussi pour notre marche. Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte de la maison de servitude. C'est comme ça qu'on l'a reçu en Israël. C'est comme ça qu'on a considéré l'Exode un événement marquant appartenant à l'histoire mais qui dit le caractère de Dieu et ce que le Seigneur veut faire, qui dit ce que le Seigneur est et les lignes selon lesquelles il agira encore. Comment donc fait-on vivre cette carte de visite de l'Exode dans la Bible? Cet événement est d'abord intégré comme une référence. L'Exode marque la véritable naissance du peuple d'Israël en tant que peuple. En regardant à son histoire, Israël avait devant les yeux une grande réalité. Son existence, il la devait entièrement à l'initiative et à l'action de Dieu en sa faveur. Si je suis là, aujourd'hui, si j'existe, c'est parce que Dieu a agi, parce que Dieu a délivré. Si j'existe maintenant, je le lui dois entièrement. Ça, c'est un repère, une référence forte. Le prophète Ézéchiel exprime cela avec d'autres mots, une autre image. Pour parler de l'Exode, il développe l'image d'un enfant abandonné et lui fait raconter cela par le Seigneur. Ézéchiel 16, versets 4 à 6. Au jour de ta naissance, personne ne t'a baigné dans l'eau pour te laver. Personne ne s'est préoccupé de t'emmailloter. Personne n'a jeté sur toi un regard de pitié. Tu as été jeté au milieu des champs. C'est un peu la description de la situation du peuple à lui-même. J'ai passé près de toi, je t'ai aperçu te débattant. Alors j'ai dit, il faut que tu vives. Oui, il faut que tu vives. J'aime bien ce texte en relation avec l'Exode. Lorsque Dieu signe sa carte de visite, « Je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte », c'est ce qu'il dit. « Je suis le Seigneur qui t'ai vu là où tu étais et qui dit sur toi, il faut que tu vives, il faut que tu vives. » Et cela c'est vrai pour nous encore, pour nous aussi ce matin. Si nous sommes ici ce matin, si nous faisons partie du peuple de Dieu, si nous sommes au nombre de ses enfants, c'est parce que Dieu est venu vers nous avec ces mots « Il faut que tu vives ». Jésus a repris ses paroles. « Je suis venu, dit-il, pour que mes brebis, c'est-à-dire ceux que je veux prendre à moi, pour les conduire comme un berger, je suis venu pour que mes brebis aient la vie, et la vie en abondance. » Et Paul renchérit, « Nous étions morts dans nos offenses, mais Dieu qui est riche en compassion, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous a rendu la vie avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. » Il y a là une vraie signature de Dieu. Et elle n'est pas restreinte à un événement du passé, c'est ainsi qu'il se présente à nous. Alors si peut-être ce matin nous sommes un peu découragés, ou peut-être un peu au bout de nous-mêmes, cette carte de visite, elle demeure, elle nous est adressée. Le Seigneur est celui qui vient vers nous, il veut que nous vivions, il faut que tu vives. Et si nous cherchons à découvrir qui veut être Dieu pour nous, sachons qu'il y a là une parole qui dit ses intentions les plus profondes, il faut que tu vives. C'est un premier aspect, une première méditation autour de cet événement. À la méditation de l'Exode, un autre mot s'impose, fondateur lui aussi est très précieux. C'est cette fois-ci le prophète Osée qui l'exprime, en reprenant d'ailleurs un thème déjà présent dans le livre de l'Exode. Et il le fait avec des accents vibrants bien que mêlés de tristesse. Osée 11, versets 1 à 4, une référence à ces événements où le Seigneur s'est manifesté. Quand Israël était un enfant, dit le Seigneur, je l'ai aimé. Et j'ai appelé mon fils hors d'Égypte. D'autres, malheureusement, l'ont appelé, et il s'est éloigné de moi. Pourtant, c'est moi qui, pour ses premiers pas, ai guidé mon peuple, qui l'ai porté dans mes bras. Mais il n'a pas voulu savoir que moi, je prenais soin de lui. C'est par des liens d'une tendresse toute humaine et des cordes d'amour que je le conduisais. Et j'ai été pour lui comme quelqu'un qui porte un nourrisson tout contre ses joues pour lui donner à manger. Le mot qui s'impose ici, pour Dieu, c'est le mot de père. Moïse avait exprimé cette relation entre Dieu et son peuple devant le Pharaon. « Israël est mon fils, disait-il, de la part de Dieu, mon premier-né, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. » Avec Osée, ici, on voit toute la dimension d'attachement et de tendresse liée à cette délivrance de l'esclavage d'Égypte. L'Exode n'est pas juste la libération de l'esclavage parce que par principe, on ne laisse pas un peuple opprimé. L'Exode est l'expression d'un attachement, l'expression d'un projet de cœur, d'une volonté aimante de conduire, d'éduquer, d'accompagner sur tous les chemins de la vie. Et Dieu dit cela avec beaucoup de force au travers de ce texte. Et c'est ce qui permettra aussi d'avoir recours en toutes sortes de situations à ce que Dieu avait montré justement de son amour paternel pour son peuple. Et ceci parfois par des prières même fortes, lorsque les situations exigent une prière forte. Ainsi Ésaïe au chapitre 63, versets 15 et 16. « Du haut du ciel, Seigneur, de ta demeure sainte, du séjour de ta gloire, regarde et vois. Que sont devenus ton amour passionné et ta puissance ? Ton cœur s'est-il donc retenu de frémir de tendresse, de compassion pour nous ? Car tu es notre Père. Abraham ne nous connaît plus, Jacob non plus, les ancêtres du peuple d'Israël. Mais toi, Seigneur, tu es notre Père et ton nom est depuis les temps anciens notre libérateur. » Il y a là un appui lorsque l'on crie à Dieu, une perspective que l'on fait valoir. « Mais Seigneur, mais tu es notre Père, notre seul vrai Père. Et depuis les temps anciens, ton nom c'est notre libérateur parce que je suis le Seigneur ton Dieu qui t'a fait sortir de l'esclavage d'Égypte. » La carte de visite du Seigneur, on la tient dans ses mains comme un engagement d'amour du Seigneur pour nous. Et c'est une base pour prier, une base pour invoquer, une base pour dire à Dieu sa confiance, son attente. Saisissons-la, nous aussi, cette parole que Dieu nous donne, pour lui dire, lorsque nous en avons besoin, notre besoin de lui, notre attente de lui, notre confiance en lui, au cœur de ce que nous vivons. Mais cette carte de visite qui nous a été donnée, elle a aussi parfois, de temps en temps, un petit côté miroir. Au miroir de l'action de Dieu, nous pouvons de temps en temps faire un point et nous considérer nous-mêmes. Cette fois-ci, c'est le prophète Amos qui nous oriente dans cette direction. Il s'adresse au peuple d'Israël dans une situation où il est assez loin de Dieu et il lui donne de la part du Seigneur un petit coup de miroir qui n'est pas très reluisant. Amos 2, versets 6 à 10, quelques extraits. Ainsi parle le Seigneur. Israël a commis de nombreux crimes. Il a même dépassé la limite. Voilà pourquoi je ne reviendrai pas sur l'arrêt que j'ai pris. Car pour un pot de vin, ils vendent l'innocent et l'indigent pour un morceau de pain. Ils piétinent les pauvres en leur brisant la tête dans la poussière. Ils faussent le droit des humbles. Ils s'étendent sur des vêtements pris à gage. Et dans le temple de leur Dieu, au pluriel, ils vont boire le vin que l'on a perçu comme amande. Et pourtant, dit le Seigneur, et pourtant je vous ai fait sortir d'Égypte et je vous ai conduit 40 ans dans le désert pour vous mettre en possession du pays des Amoréens. La carte de visite de l'action de Dieu ici sert de miroir. Voilà ce que vous faites et pourtant je vous ai fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. Vous exploitez le pauvre. Vous vendez l'innocent, vous reproduisez ce dont moi j'ai dû vous délivrer. Et pourtant, je vous ai fait sortir d'Égypte. L'apôtre Paul dit quelque chose de semblable aux chrétiens de Corinthe. Il leur dit, vous avez été rachetés, c'est-à-dire libérés, sortis de l'esclavage du péché. Vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps qui appartient à Dieu. 1 Corinthiens 6, verset 20. Je propose que nous gardions aussi cette carte de visite de l'action de Dieu qui nous a rachetés à un grand prix, pour y jeter de temps en temps ce genre de regard. Le Seigneur m'a libéré, le Seigneur m'a pardonné. Qu'est-ce que je fais de cette liberté qu'il m'a donnée? Qu'est-ce que je fais de ce pardon qu'il m'a acquis? Le coup de miroir peut être aussi plus positif. Il n'est pas là simplement pour mettre en lumière les écarts qui sont les nôtres. Il peut aussi nous motiver pour aller plus loin. L'un des initiateurs des missions protestantes après la Réforme est un Allemand. Rien ne prédisposait à parcourir le monde pour annoncer l'Évangile. Il faisait partie de la noblesse allemande. Son nom, rien que son nom le dit, le comte de Zinzendorf. Un jour, cet homme découvre un tableau représentant la mort du Christ. L'artiste a su très bien rendre la scène, mais surtout, il avait mis au bas du tableau un petit mot. Il disait « Voilà ce que j'ai fait pour toi, et toi, qu'as-tu fait pour moi ?» Cette simple question a complètement bouleversé Zinzendorf pour en faire l'un des grands missionnaires de tous les temps. On a ici une carte de visite qui rappelle ce que le Seigneur a fait, la délivrance, l'amour manifesté, qui pousse à aller de l'avant et qui donne envie de répondre positivement. Une fonction de miroir, une fonction de rappel. Mais cette carte de visite, rappelant l'action passée de la délivrance de l'Exode, devient aussi en Israël le support d'une attente. On se rend bien compte au fil de l'histoire que la libération dont on a besoin, elle n'est pas seulement la libération de conditions de vie extérieures, c'est aussi une libération intérieure, un renouvellement intérieur. L'histoire d'Israël délivrée par Dieu n'est pas très brillante, pas toujours très brillante, comme c'est le cas de notre vie à nous aussi parfois. Et on se rend compte qu'il faut plus qu'une délivrance extérieure, il faut un pardon Il faut un renouvellement de vie intérieure. Il faut un salut entier. Et c'est ici que la carte de visite laissée par le Seigneur sert encore d'appui, de perspective, et permet d'attendre une nouvelle intervention de Dieu, permet d'attendre un nouvel exode qui apportera une délivrance plus radicale, plus profonde que le premier exode. Ce nouvel exode, ce salut, les prophètes en ont parlé souvent. Si vous lisez les prophètes, vous trouvez souvent des textes qui disent que Dieu va à nouveau frayer une voie comme autrefois. Parfois, ils en parlent avec des textes, avec des termes très poétiques. Je voudrais juste lire quelques extraits d'un de ces passages, Ésaïe 35. Le désert et le pays aride se réjouiront, dit le prophète. La solitude s'égaiera et fleurira comme un narcisse. Elle se couvrira de fleurs et tressaillera de chants, et tressaillera de joie, pardon, avec des chants d'allégresse et des cris de triomphe. Car là, on verra la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez donc les mains défaillantes, affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez pas. Voici votre Dieu va venir pour la rétribution. Il viendra lui-même et il vous sauvera. Alors s'ouvriront les yeux des aveugles et les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. Car des eaux jailliront dans le désert et des ruisseaux dans la solitude. Le mirage se changera en oasis et la terre desséchée en source d'eau. Il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul impur n'y passera, ce sera pour eux seuls. Sur cette route, point de lion, les délivrés y marcheront. Ceux que le Seigneur a libérés retourneront. Ils iront à Sion avec des cris de joie. Un bonheur éternel couronnera leur tête. Ils auront en partage l'allégresse et la joie, tristesse et plainte s'enfuiront. Un texte très poétique, c'est fort, c'est magnifique. Il y a ici l'annonce d'une intervention de Dieu qui renouvelle, d'un Dieu qui rend la vie à ceux qui en manquent tellement, que ce soit parce qu'ils ne voient pas, parce qu'ils n'entendent pas. Un Dieu qui trace un chemin de salut, même au cœur du désert de la vie. Et ce chemin qui est tracé est une voie sainte, un chemin pour ceux qui appartiennent à Dieu et un chemin qui conduit à Dieu. Il est aussi une voie sûre, pas de danger. Ceux qui marchent sur cette voie sont appelés les délivrés. Son aboutissement, c'est Sion, le lieu choisi par Dieu pour son peuple et qui prend ici la forme d'une destination éternelle, définitive, pleinement renouvelé, un bonheur éternel qui couronne leur tête, en partage l'allégresse et la joie avec tristesse et plainte qui s'enfuit. Voilà ce qui est annoncé comme nouvelle action de Dieu, de ce Dieu qui, justement, est le Dieu qui a fait sortir d'Égypte. Il y a là un élargissement de tous les thèmes. On reconnaît ici ce que Jésus a apporté par sa venue. Ce renouvellement de vie qui apporte sens et joie parce que Dieu s'est approché de nous et qu'on peut marcher à cette lumière. La libération de nos péchés qui fait de nous des délivrés qui peuvent marcher désormais sur la voie de Dieu parce que nous avons reçu de lui la parole libératrice. Tes péchés sont pardonnés, lève-toi et marche. Ce chemin nouveau qui s'ouvre devant nous, la voie sainte, où il nous accompagne, où il nous renouvelle par son esprit. Et devant nous, la destinée qui nous est fixée, le rendez-vous éternel de Dieu pour les siens, dans un monde entièrement renouvelé, une joie éternelle en sa présence. À la lumière de Jésus-Christ, la carte de visite du Seigneur prend une dimension bouleversante. Il viendra lui-même et vous sauvera, disait le prophète. En Jésus, Dieu se fait homme. En Jésus, Dieu s'abaisse pour nous rejoindre là où nous sommes et nous sortir de notre misère. Il vient, il se donne pour nous, il prend tout sur lui jusqu'à notre condamnation, pour faire de nous ces délivrés dont on peut dire, il marche sur la voie sainte, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. C'est pour cela qu'il a souffert la croix. Mais en Jésus, c'est aussi, par-delà la mort et la condamnation, le matin d'un jour nouveau par sa résurrection, et l'horizon d'une espérance forte, désormais ancrée sur sa victoire, qu'il parachèvera en faisant toutes choses nouvelles au jour de son retour. Oui, en Jésus, nous pouvons être aujourd'hui ces délivrés qui marchent sur la voie sainte que Dieu leur trace, le regard déjà éclairé par tout ce qu'il a fait pour nous. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Si nous avons ouvert notre vie à Dieu, et accepter le salut que Jésus nous a acquis. La carte de visite du Seigneur nous indique notre destination, tout en traçant pour nous un nouveau chemin de vie. Marchons sur ce chemin, sur cette voie sainte où il nous a placés. Fortifions les mains défaillantes, affermissons les genoux qui chancellent. Car cette carte de visite du Seigneur n'est pas un simple bout de carton imprimé. Elle est le trésor d'une présence, d'un engagement total, d'une promesse éternelle. Amen.